Chapitre 4. Premières impressions. Suite. On nous contrôla encore une fois, puis on ferma les portes des casernes, chacune avec un cadenas particulier, et les détenus restèrent enfermés jusqu'à l'aube. Le contrôle était fait par un sous-officier accompagné de deux soldats. Quand, par hasard, un officier y assistait, on faisait ranger les forçats dans la cour. Mais, le plus ordinairement, on les vérifiait dans les bâtiments mêmes. Comme les soldats se trompaient souvent, ils sortaient et rentraient pour nous recompter un à un, jusqu'à ce que leur compte fût exact. Ils fermaient alors les casernes. Chacune d'elles contenait environ 30 détenus, aussi était-on fort à l'étroit sur les lits de camp. Comme il était trop tôt pour dormir, les forçats se mirent au travail. Outre l'invalide dont j'ai parlé, qui couchait dans notre dortoir et représentait pendant la nuit l'administration de la prison, il y avait dans chaque caserne un ancien désigné par le major en récompense de sa bonne conduite. Il n'était pourtant pas rare que les anciens eux-mêmes commissent des délits pour lesquels ils subissaient la peine du fouet. Ils perdaient alors leur rang et se voyaient immédiatement remplacés par ceux de leurs camarades dont la conduite était satisfaisante. Notre ancien était précisément Hakim Hakimitch. À mon grand étonnement, il tensait vertement les détenus, mais ceux-ci ne répondaient à ses remontrances que par des railleries. L'invalide, plus avisé, ne se mêlait de rien, et s'il ouvrait la bouche, ce n'était jamais que par respect des convenances, par acquis de conscience. Il restait assis, silencieux, sur sa couchette, occupé à rapetasser de vieilles bottes. Ce jour-là, je fis une remarque dont je pus constater l'exactitude par la suite. C'est que tous ceux qui ne sont pas forçats et qui ont affaire à ces derniers, quels qu'ils soient, à commencer par les soldats d'escorte et les factionnaires, considèrent les forçats d'un point de vue faux et exagéré. Ils s'attendent à ce que pour un oui, pour un non, ceux-ci se jettent sur eux un couteau à la main. Les détenus, parfaitement conscients de la crainte qu'ils inspirent, montrent une certaine arrogance. Aussi le meilleur chef de prison est-il précisément celui qui n'éprouve aucune émotion en leur présence. Malgré les airs qu'ils se donnent, les forçats eux-mêmes préfèrent qu'on ait confiance en eux. On peut même se les attacher en agissant ainsi. J'ai eu plus d'une fois l'occasion de remarquer leur étonnement lors de l'entrée d'un chef sans escorte dans leur prison, et certainement cet étonnement n'a rien que de flatteur. Un visiteur intrépide impose le respect aux gens du bagne. Si un malheur arrive, ce ne sera jamais en sa présence. La terreur qu'inspirent les forçats est générale, et pourtant je n'y vois aucun fondement. Est-ce l'aspect du prisonnier, sa mine de franc bandit, qui cause une certaine répulsion? Ne serait-ce pas plutôt le sentiment qui vous assaille, dès votre entrée dans la prison, à savoir que malgré tous les efforts, toutes les mesures prises, il est impossible de faire d'un homme vivant un cadavre, d'étouffer ses sentiments, sa soif de vengeance et de vie, ses passions, et le besoin impérieux de les satisfaire. Quoi qu'il en soit, j'affirme qu'il n'y a pas lieu de craindre les forçats. Un homme ne se jette ni si vite, ni si facilement sur son semblable un couteau à la main. Si des accidents arrivent quelquefois, ils sont tellement rares qu'on peut déclarer le danger nul. Je ne parle bien entendu que des détenus déjà condamnés, qui subissent leur peine, et dont quelques-uns sont presque heureux de se trouver enfin au bagne, tant une nouvelle forme de vie a toujours d'attrait pour l'homme. Ceux-là vivent tranquilles et soumis. Quant aux turbulents, les forçats les maintiennent eux-mêmes en repos, et leur arrogance ne va jamais trop loin. Le détenu, si hardi et audacieux qu'il soit, a peur de tout en prison. Il n'en est pas de même du prévenu dont le sort n'est pas décidé. Celui-ci est parfaitement capable de se jeter sur n'importe qui, sans motif de haine, uniquement parce qu'il doit être fouetté le lendemain. En effet, s'il commet un nouveau crime, son affaire se complique, le châtiment est retardé, il gagne du temps. Cette agression s'explique, car elle a une cause, un but. Le forçat, coûte que coûte, veut changer son sort, et cela tout de suite. À ce propos, j'ai été témoin d'un fait psychologique bien étrange. Dans la section des condamnés militaires se trouvait un ancien soldat envoyé pour 2 ans aux travaux forcés, fief et fanfaron et couard en même temps. En général, le soldat russe n'est guère vantard, car il n'en a pas le temps alors même qu'il le voudrait. Quand il s'en trouve un dans le nombre, c'est toujours un lâche, un fripon. Doutov, c'était le nom du détenu dont je parle, subit sa peine et rentra de nouveau dans un bataillon de ligne. Mais comme tous ceux qu'on envoie se corriger à la maison de force, il s'y était complètement perverti. Ses chevaux de retour reviennent au bagne après 2 ou 3 semaines de liberté, non plus pour un temps relativement court, mais pour 15 ou 20 ans. Ainsi arriva-t-il pour Doutov. 3 semaines après sa mise en liberté, il vola avec effraction l'un de ses camarades et fit l'indiscipliné. Il passa en jugement, fut condamné à une sévère punition corporelle. Horriblement effrayé, comme un lâche qu'il était, par le châtiment prochain, il s'élança un couteau à la main sur l'officier de garde qui entrait dans son cachot, la veille du jour où il devait passer par les baguettes de sa compagnie. Il comprenait parfaitement que par là, il aggravait son crime et augmentait la durée de sa condamnation. Mais tout ce qu'il voulait, c'était reculer de quelques jours, de quelques heures au moins, l'effroyable minute du châtiment. Il était si lâche qu'il ne blessa même pas l'officier avec le couteau qu'il brandissait. Il n'avait commis cette agression que pour ajouter à son dossier un nouveau crime, lequel nécessiterait sa remise en jugement. L'instant qui précède la punition est terrible pour le condamné aux verges. J'ai vu beaucoup de prévenus la veille du jour fatal. Je les rencontrais d'ordinaire à l'hôpital quand j'étais malade, ce qui m'arrivait souvent. En Russie, les gens qui montrent le plus de compassion pour les forçats sont bien certainement les médecins. Ils ne font jamais entre les détenus les distinctions dont sont coupables les autres personnes en rapport direct avec ceux-ci. Seul, peut-être, le peuple lutte de compassion avec les docteurs, car il ne reproche jamais au criminel le délit qu'il a commis, quel qu'il soit. Il le lui pardonne en faveur de la peine subie. Ce n'est pas en vain que le peuple, dans toute la Russie, appelle le crime un malheur et le criminel un malheureux. Cette définition est expressive, profonde, et d'autant plus importante qu'elle est inconsciente, instinctive. Les médecins sont donc le recours naturel des forçats, surtout quand ceux-ci ont à subir une punition corporelle. Le prévenu qui a passé en conseil de guerre sait à peu près à quel moment la sentence sera exécutée. Pour y échapper, il se fait envoyer à l'hôpital afin de reculer de quelques jours la terrible minute. Quand il se déclare rétabli, il n'ignore pas que le lendemain de sa sortie de l'hôpital, cette minute arrivera. Aussi les forçats sont-ils toujours émus ce jour-là. Quelques-uns, il est vrai, cherchent par amour-propre à cacher leur émotion, mais personne ne se laisse tromper par ce faux semblant de courage. Chacun comprend la cruauté de ce moment et se tait par humanité. J'ai connu un tout jeune forçat, ex-soldat condamné pour meurtre, qui devait recevoir le maximum de coups de verge. La veille du jour où il devait être fouetté, il résolut de boire une bouteille d'eau-de-vie dans laquelle il avait fait infuser du tabac à priser. Le détenu condamné aux verges a toujours bu, avant le moment critique, de l'eau-de-vie qu'il s'est procurée longtemps à l'avance, souvent à un prix fabuleux. Il se priverait du nécessaire pendant 6 mois plutôt que de ne pas en avaler 1/4 litre avant l'exécution. Les forçats sont convaincus qu'un homme ivre souffre moins des coups de bâton ou de fouet que s'il est de sang-froid. Je reviens à mon récit. Le pauvre diable tomba malade quelques instants après avoir bu sa bouteille d'eau-de-vie. Il vomit du sang et fut emporté sans connaissance à l'hôpital. Sa poitrine fut si déchirée par cet accident qu'une phtisie se déclara et emporta le soldat au bout de quelques mois. Les docteurs qui le soignaient ne surent jamais la cause de sa maladie. Si les exemples de pusillanimité ne sont pas rares parmi les détenus, il faut ajouter aussi qu'on en trouve dont l'intrépidité étonne. Je me souviens de plusieurs traits de fermeté qui allait jusqu'à l'insensibilité. L'arrivée d'un effroyable bandit à l'hôpital est restée gravée dans ma mémoire. Par un beau jour d'été, le bruit se répandit dans notre infirmerie que le fameux brigand Orloff devait être fustigé le soir même et qu'on l'amènerait ensuite à l'ambulance. Les détenus qui se trouvaient à l'hôpital affirmaient que l'exécution serait cruelle. Aussi tout le monde était-il ému. Moi-même, je l'avoue, j'attendais avec curiosité l'arrivée de ce brigand dont on racontait des choses inouïes. C'était un malfaiteur comme il y en a peu, capable d'assassiner de sang-froid des vieillards et des enfants. Il était doué d'une force de volonté indomptable et plein d'une orgueilleuse conscience de sa force. Comme il était coupable de plusieurs crimes, il avait été condamné à passer par les baguettes. On l'amena, ou plutôt on l'apporta vers le soir. La salle était déjà plongée dans l'obscurité. On alluma les chandelles. Orloff était excessivement pâle, presque sans connaissance, avec des cheveux épais et bouclés d'un noir mat sans reflet. Son dos était tout écorché et enflé, bleu avec des taches de sang. Les détenus le soignèrent pendant toute cette nuit. Ils lui changèrent ses compresses, le couchèrent sur le côté, lui préparèrent la lotion ordonnée par le médecin. En un mot, ils eurent pour lui autant de sollicitude que pour un parent ou un bienfaiteur. Le lendemain, il reprit entièrement ses sens et fit un ou deux tours dans la salle. Cela m'étonna fort, car il était anéanti et sans force quand on l'avait apporté. Il avait reçu la moitié du nombre de coups de baquette fixés par l'arrêt. Le docteur avait fait cesser l'exécution, convaincu que si on la continuait, la mort d'Orloff devenait inévitable. Ce criminel était de constitution débile, affaibli par une longue réclusion. Qui a vu des détenus condamnés aux verges se souviendra toujours de leurs visages maigres et épuisés, de leurs regards enfiévrés. Orloff fut bientôt rétabli. Sa puissante énergie avait évidemment aidé à remonter son organisme. Ce n'était pas un homme ordinaire. Par curiosité, je fis sa connaissance et je pus l'étudier à loisir pendant toute une semaine. De ma vie, je n'ai rencontré un homme dont la volonté fut plus ferme, plus inflexible. J'avais vu à Tobolsk une célébrité du même genre, un ancien chef de brigand. Celui-là était une véritable bête fauve. En le frôlant, sans même le connaître, on pressentait en lui une créature dangereuse. Ce qui m'effrayait surtout, c'était sa stupidité. La matière en lui avait tellement pris le dessus sur l'esprit qu'on voyait du premier regard que rien n'existait plus pour lui, si ce n'est la satisfaction brutale de ses besoins physiques. Je suis certain pourtant que Korenev, ainsi s'appelait ce brigand, se serait évanoui en s'entendant condamné à un châtiment corporel aussi rigoureux que celui d'Orloff. Et il eût égorgé le premier venu sans sourciller. Orloff, au contraire, était une éclatante victoire de l'esprit sur la chair. Cet homme se commandait parfaitement. Il n'avait que du mépris pour les punitions et ne craignait rien au monde. Ce qui dominait en lui, c'était une énergie sans bornes, une soif de vengeance, une activité, une volonté inébranlable quand il s'agissait d'atteindre un but. Je fus étonné de son air hautain. Il regardait tout du haut de sa grandeur, non pas qu'il prît la peine de poser. Cet orgueil était inné en lui. Je ne pense pas que personne ait jamais eu quelque influence sur lui. Il regardait tout d'un œil impassible, comme si rien au monde ne pouvait l'étonner. Il savait fort bien que les autres déportés le respectaient, mais il n'en profitait nullement pour se donner de grands airs. Et pourtant, la vanité et l'outrecuidance sont des défauts dont aucun forçat n'est exempt. Il était intelligent. Sa franchise étrange ne ressemblait nullement à du bavardage. Il répondit sans détour à toutes les questions que je lui posais. Il m'avoua qu'il attendait avec impatience son rétablissement afin d'en finir avec la punition qu'il devait subir. « Maintenant, me dit-il en clignant de l'œil, c'est fini. Je recevrai mon reste et l'on m'enverra à Nertchinsk avec un convoi de détenus. J'en profiterai pour m'enfuir. Je m'évaderai, pour sûr. Si seulement mon dos se cicatrisait plus vite. Pendant 5 jours, il brûla d'impatience d'être en état de quitter l'hôpital. Il était quelquefois gai et de bonne humeur. Je profitais de ses éclaircies pour l'interroger sur ses aventures. Il fronçait légèrement les sourcils, mais il répondit toujours avec sincérité à mes questions. Quand il comprit que j'essayais de le pénétrer et de trouver en lui quelques traces de repentir, il me regarda d'un air hautain et méprisant, comme si j'eusse été un gamin un peu bête auquel il faisait trop d'honneur en causant. Je surpris sur son visage une sorte de compassion pour moi. Au bout d'un instant, il se mit à rire à gorge déployée, mais sans la moindre ironie. J'imagine que plus d'une fois, il a dû rire tout haut quand mes paroles lui revenaient à la mémoire. Il se fit inscrire enfin pour la sortie, bien que son dos ne fût pas entièrement cicatrisé. Comme j'étais presque rétabli, nous quittâmes ensemble l'infirmerie. Je rentrai à la maison de force, tandis qu'on l'incarcérait au poste où il avait été enfermé auparavant. En me quittant, il me serra la main, ce qui, à ses yeux, était une marque de haute confiance. Je pense qu'il agit ainsi parce qu'il était bien disposé en ce moment-là. En réalité, il devait me mépriser, car j'étais un être faible, pitoyable sous tous les rapports, et qui se résignait à son sort. Le lendemain, il subit la seconde moitié de sa punition. Quand on eut fermé sur nous les portes de notre caserne, elle prit, en moins de rien, un tout autre aspect, celui d'une demeure véritable, d'un foyer domestique. Alors seulement, je vis mes camarades les forçats chez eux. Pendant la journée, les sous-officiers ou quelque autre supérieur pouvaient arriver à l'improviste. Aussi leur contenance était-elle tout autre. Toujours sur le qui-vive, ils n'avaient l'air rassurés qu'à demi. Une fois qu'on eut poussé les verrous et fermé la porte au cadenas, chacun s'assit à sa place et se mit au travail. La caserne s'éclaira d'une façon inattendue. Chaque forçat avait sa bougie et son chandelier de bois. Les uns piquaient des bottes, les autres cousaient des vêtements quelconques. L'air déjà méphitique se corrompait de plus en plus. Quelques détenus accroupis dans un coin jouaient aux cartes sur un tapis déroulé. Dans chaque caserne, il y avait un détenu qui possédait un tapis long de 80 cm, une chandelle et des cartes horriblement poisseuses et graisseuses. Cela s'appelait un jeu. Le propriétaire des cartes recevait des joueurs 15 copecs par nuit. C'était là son commerce. On jouait d'ordinaire aux trois feuilles, à la gorka, c'est-à-dire à des jeux de hasard. Chaque joueur posait devant lui une pile de monnaie de cuivre, toute sa fortune, et ne se relevait que quand il était à sec ou qu'il avait fait sauter la banque. Le jeu se prolongeait fort tard dans la nuit. L'aube se levait quelquefois sur nos joueurs qui n'avaient pas fini leur partie. Souvent même, elle ne cessait que quelques minutes avant l'ouverture des portes. Dans notre salle, il y avait, comme dans toutes les autres du reste, des mendiants ruinés par le jeu et la boisson, ou plutôt des mendiants innés. Je dis innés et je maintiens mon expression. En effet, dans notre peuple et dans n'importe quelle condition, il y a et il y aura toujours de ces personnalités étranges et paisibles dont la destinée est de rester toujours mendiant. Ils sont pauvres diables toute leur vie, hébétés et accablés, ils restent sous la domination, sous la tutelle de quelqu'un, principalement des prodigues et des parvenus enrichis. Tout effort, toute initiative est un fardeau pour eux. Ils ne vivent qu'à la condition de ne rien entreprendre eux-mêmes, mais de toujours servir, de toujours vivre par la volonté d'un autre. Ils sont destinés à agir par et pour les autres. Nulle circonstance ne peut les enrichir, même la plus inattendue. Ils sont toujours mendiants. J'ai rencontré de ces gens dans toutes les classes de la société, dans toutes les coteries, dans toutes les associations, même dans le monde littéraire. On les trouve dans chaque prison, dans chaque caserne. Aussitôt qu'un jeu se formait, on appelait un de ces mendiants qui était indispensable joueur. Il recevait 5 copecs argent pour toute la nuit de travail, et quel travail ! Cela consistait à monter la garde dans le vestibule par un froid de 30 degrés rayé au mur, dans une obscurité complète, pendant 6 ou 7 heures. Le guetteur épiait là le moindre bruit, car le major ou les officiers de garde faisaient quelquefois leur ronde assez tard dans la nuit. Ils arrivaient en tapinois et surprenaient en flagrant délit de désobéissance les joueurs et les travailleurs grâce à la lumière des chandelles que l'on pouvait distinguer de la cour. Quand on entendait la clé grincer dans le cadenas qui fermait la porte, il était trop tard pour se cacher, éteindre les chandelles et s'étendre sur les planches. De pareilles surprises étaient fort rares. 5 copecs étaient un salaire dérisoire, même dans notre maison de force. Et néanmoins, l'exigence et la dureté des joueurs m'étonnaient toujours en ce cas, ainsi que dans bien d'autres. « Tu es payé, tu dois nous servir. » C'était là un argument qui ne souffrait pas de réplique. Il suffisait d'avoir payé quelques sous à quelqu'un pour profiter de lui le plus possible et même exiger de la reconnaissance. Plus d'une fois, j'eus l'occasion de voir des forçats dépenser leur argent sans compter, à tort et à travers, et tromper leurs serviteurs. J'ai vu cela dans maintes prisons à plusieurs reprises. J'ai déjà dit qu'à part les joueurs, tout le monde travaillait. 5 détenus seuls restèrent complètement oisifs et se couchèrent presque immédiatement. Ma place sur les planches se trouvait près de la porte, au-dessous de moi, celle d'Hakim Akimitch. Quand nous étions couchés, nos têtes se touchaient. Il travailla jusqu'à 10 ou 11 heures à coller une lanterne multicolore qu'un habitant de la ville lui avait commandée et pour laquelle il devait être grassement payé. Il excellait dans ce travail, qu'il exécutait méthodiquement sans relâche. Quand il eut fini, il serra soigneusement ses outils, déroula son matelas, fit sa prière et s'endormit du sommeil du juste. Il poussait l'ordre et la minutie jusqu'au pédantisme, et devait s'estimer dans son fort intérieur un homme de tête comme c'est le cas des gens bornés et médiocres. Il ne me plut pas au premier abord, bien qu'il me donnât beaucoup à penser ce jour-là. Je m'étonnais qu'un pareil homme se trouvât dans une maison de force, au lieu d'avoir fait une brillante carrière. Je parlerai plus d'une fois d'Hakim Akimitch dans la suite de mon récit. Mais il me faut décrire le personnel de notre caserne. J'étais appelé à y vivre nombre d'années. Ceux qui m'entouraient devaient être mes camarades de toutes les minutes. On conçoit que je les regardais avec une curiosité avide. À ma gauche, dormait une bande de montagnards du Caucase, presque tous exilés pour leur brigandage, et condamnés à des peines différentes. Il y avait là 2 lesguines, 1 tcherkesse et 3 tartares du Daghestan. Le tcherkesse était un être morose et sombre, qui ne parlait presque jamais, et vous regardait en dessous de son mauvais sourire de bête venimeuse. Un des lesguines, un vieillard au nez aquilin, long et mince, paraissait un franc bandit. En revanche, l'autre lesguine, Noura, fit sur moi l'impression la plus favorable et la plus consolante. De taille moyenne, encore jeune, bâti en Hercule, avec des cheveux blonds et des yeux de pervenche, il avait le nez légèrement retroussé, les traits quelque peu finois. Comme tous les cavaliers, il marchait la pointe des pieds en dedans. Son corps était zébré de cicatrices, labouré de coups de baïonnette et de balles. Quoique montagnard soumis du Caucase, il s'était joint aux rebelles, avec lesquels il opérait de continuelles incursions sur notre territoire. Tout le monde l'aimait dans le bagne à cause de sa gaieté et de son affabilité. Il travaillait sans murmurer, toujours paisible et serein. Les vols, les friponneries et l'ivrognerie le dégoûtaient ou le mettaient en fureur. En un mot, il ne pouvait souffrir ce qui était malhonnête. Il ne cherchait querelle à personne. Il se détournait seulement avec indignation. Pendant sa réclusion, il ne vola ni ne commit aucune mauvaise action. D'une piété fervente, il récitait religieusement ses prières chaque soir, observait tous les jeûnes mahométans, en vrai fanatique, et passait des nuits entières à prier. Tout le monde l'aimait et le tenait pour sincèrement honnête. « Noura est un lion, » disaient les forçats. Ce nom de lion lui resta. Il était parfaitement convaincu qu'une fois sa condamnation purgée, on le renverrait au Caucase. À vrai dire, il ne vivait que de cette espérance. Je crois qu'il serait mort si on l'en avait privé. Je le remarquai le jour même de mon arrivée à la maison de force. Comment n'aurait-on pas distingué cette douce et honnête figure au milieu des visages sombres, rébarbatifs ou sardoniques? Pendant la première demi-heure, il passa à côté de moi et me frappa doucement l'épaule en me souriant d'un air débonnaire. Je ne compris pas tout d'abord ce qu'il voulait me dire, car il parlait fort mal le russe. Mais bientôt après, il repassa de nouveau et me tapa encore sur l'épaule avec son sourire amical. Pendant 3 jours, il répéta cette manœuvre singulière. Comme je le devinais par la suite, il m'indiquait par là qu'il avait pitié de moi et qu'il sentait combien devaient m'être pénibles ses premiers instants. Il voulait me témoigner sa sympathie, me remonter le moral et m'assurer de sa protection. Bon et naïf Noura. Des 3 Tartares du Daghestan, 12 frères, les 2 aînés étaient des hommes faits, tandis que le cadet, Aleï, n'avait pas plus de 22 ans. À le voir, on l'aurait cru plus jeune. Il dormait à côté de moi. Son visage intelligent et franc, naïvement débonnaire, m'attira tout d'abord. Je remerciai la destinée de me l'avoir donné pour voisin au lieu de quelque autre détenu. Son âme tout entière se lisait sur sa belle figure ouverte. Son sourire si confiant avait tant de simplicité enfantine, ses grands yeux noirs étaient si caressants, si tendres, que j'éprouvais toujours un plaisir particulier à le regarder, et cela me soulageait dans les instants de tristesse et d'angoisse. Dans son pays, son frère aîné, il en avait 5, dont 2 se trouvaient aux mines en Sibérie, lui avait ordonné un jour de prendre son yatagan, de monter à cheval et de le suivre. Le respect des montagnards pour leurs aînés est si grand que le jeune Ali n'osa pas demander le but de l'expédition. Il n'en eut peut-être pas même l'idée. Ses frères ne jugèrent pas non plus nécessaire de le lui dire. Ils allaient piller la caravane d'un riche marchand arménien qu'ils réussirent en effet à mettre en déroute. Ils assassinèrent le marchand et dérobèrent ses marchandises. Malheureusement pour eux, leur acte de brigandage fut découvert. On les jugea, on les fouetta, puis on les envoya en Sibérie aux travaux forcés. Le tribunal n'admit de circonstances atténuantes qu'en faveur d'Aleï, qui fut condamné au minimum de la peine, 4 ans de réclusion. Ses frères l'aimaient beaucoup. Leur affection était plutôt paternelle que fraternelle. Il était l'unique consolation de leur exil. Mornes et tristes d'ordinaire, ils lui souriaient toujours. Quand ils lui parlaient, ce qui était fort rare, car ils le tenaient pour un enfant auquel on ne peut rien dire de sérieux, leur visage rébarbatif s'éclaircissait. Je devinais qu'ils lui parlaient toujours d'un ton badin comme à un bébé. Lorsqu'il leur répondait, les frères échangeaient un coup d'œil et souriaient d'un air bonhomme. Il n'aurait pas osé leur adresser la parole à cause de son respect pour eux. Comment ce jeune homme put conserver son cœur tendre, son honnêteté native, sa franche cordialité sans se pervertir et se corrompre pendant tout le temps de ses travaux forcés, cela est presque inexplicable. Malgré toute sa douceur, il avait une nature forte et stoïque, comme je pus m'en assurer plus tard. Chaste comme une jeune fille, toute action vile, cynique, honteuse ou injuste, enflammait d'indignation ses beaux yeux noirs qui en devenaient plus beaux encore. Sans être de ceux qui se seraient laissés impunément offenser, il évitait les querelles, les injures et conservait toute sa dignité. Avec qui se serait-il querellé, du reste? Tout le monde l'aimait et le caressait. Il ne fut tout d'abord que poli avec moi, mais peu à peu nous en vîmes à causer le soir. Quelques mois lui avaient suffi pour apprendre parfaitement le russe, tandis que ses frères ne parvinrent jamais à parler correctement cette langue. Je fis en lui un jeune homme extraordinairement intelligent, en même temps que modeste et délicat, et fort raisonnable. Aleï était un être d'exception, et je me souviens toujours de ma rencontre avec lui comme d'une des meilleures fortunes de ma vie. Il y a de ces natures si spontanément belles et douées par Dieu de si grandes qualités que l'idée de les voir se pervertir semble absurde. On est toujours tranquille sur leur compte, aussi n'ai-je jamais rien craint pour Aleï. Où est-il maintenant ? Un jour, assez longtemps après mon arrivée à la maison de force, j'étais étendu sur mon lit de camp. De pénibles pensées m'agitaient. À l'œil, toujours laborieux, ne travaillait pas en ce moment. L'heure du sommeil n'était pas encore arrivée. Les frères célébraient une fête musulmane, aussi restaient-ils inactifs. Alei était couché, la tête entre ses deux mains, en train de rêver. Tout à coup, il me demande « Eh bien, tu es triste ?» Je le regardais avec curiosité. Cette question d'Alei, toujours si délicat, si plein de tact, me parut étrange. Mais je l'examinais plus attentivement. Je remarquais tant de chagrin, de souffrance intime sur son visage, souffrance éveillée sans doute par les souvenirs qui se présentaient à sa mémoire, que je compris qu'en ce moment, lui-même était désolé. Je lui en fis la remarque. Il soupira profondément et sourit d'un air mélancolique. J'aimais son sourire toujours gracieux et cordial. Quand il riait, il montrait deux rangées de dents que la première beauté du monde eût pu lui envier. « Tu te rappelais probablement, à l'œil, comment on célèbre cette fête au Daghestan, hein ? Il fait bon là-bas. » « Oui, fit-il avec enthousiasme, et ses yeux rayonnaient. Comment as-tu pu deviner que je rêvais à cela ?»« Comment ne pas le deviner ? Est-ce qu'il ne fait pas meilleur là-bas qu'ici ? Oh, pourquoi me dis-tu cela ? Quelle belle fleur il y a dans votre pays, n'est-ce pas ? C'est un vrai paradis. Tais-toi, tais-toi, je t'en prie. » Il était vivement ému. « Écoute, Alei, tu avais une sœur ?»« Oui, pourquoi me demandes-tu cela ?»« Elle doit être bien belle, si elle te ressemble. »« Oh, il n'y a pas de comparaison à faire entre nous deux. Dans tout le Daghestan, on ne trouvera pas une seule fille aussi belle. Quelle beauté que ma sœur ! Je suis sûr que tu n'en as jamais vu de pareille. Et puis, ma mère était aussi très belle. » Et ta mère t'aimait ? Que dis-tu ? Assurément, elle est morte de chagrin. Elle m'aimait tant. J'étais son préféré. Oui, elle m'aimait plus que ma sœur, plus que tous les autres. Cette nuit, en songe, elle est venue vers moi. Elle a versé des larmes sur ma tête. Il se tut, et de toute la soirée, il n'ouvrit pas la bouche. Mais à partir de ce moment, il rechercha ma compagnie et ma conversation, bien que par respect, il ne se permit jamais de m'adresser le premier la parole. En revanche, il était heureux quand je m'entretenais avec lui. Il parlait souvent du Caucase, de sa vie passée. Ses frères ne lui défendaient pas de causer avec moi, je crois même que cela leur était agréable. Quand ils virent que je me prenais d'affection pour Alei, ils devinrent eux-mêmes beaucoup plus affables pour moi. Alei m'aidait souvent aux travaux. À la caserne, il faisait ce qu'il croyait devoir m'être agréable et me procurait quelque soulagement. Il n'y avait dans ses attentions ni servilité, ni espoir d'un avantage quelconque, mais seulement un sentiment chaleureux et cordial qu'il ne cachait nullement. Il avait une aptitude extraordinaire pour les arts mécaniques. Il avait appris à coudre fort passablement le linge et à raccommoder les bottes. Il connaissait même quelque peu de menuiserie, ce qu'on en pouvait apprendre à la maison de force. Ses frères étaient fiers de lui. « Écoute, Alei, lui dis-je un jour, pourquoi n'apprends-tu pas à lire et à écrire le russe ? Cela pourrait être fort utile plus tard, ici en Sibérie. Je le voudrais bien, mais qui m'instruira ? Ceux qui savent lire et écrire ne manquent pas ici. Si tu veux, je t'instruirai moi-même. »« Oh, apprends-moi à lire, je t'en prie, » fit Alei en se soulevant. Il joignit les mains en me regardant d'un air suppliant. Nous nous mîmes à l'œuvre le lendemain soir. J'avais avec moi une traduction russe du Nouveau Testament, l'unique livre qui ne fut pas défendu à la maison de force. Avec ce seul livre, sans alphabet, Alei apprit à lire en quelques semaines. Au bout de 3 mois, il comprenait parfaitement le langage écrit, car il apportait à l'étude un feu, un entraînement extraordinaire. Un jour, nous lûmes ensemble, en entier, le sermon sur la montagne. Je remarquai qu'il lisait certains passages d'un ton particulièrement pénétré. Je lui demandai alors si ce qu'il venait de lire lui plaisait. Il me lança un coup d'œil, et son visage s'enflamma d'une rougeur subite. « Oh oui, Jésus est un saint prophète. Il parle la langue de Dieu. Comme c'est beau. Mais dis-moi ce qui te plaît le mieux. » Le passage où il est dit « Pardonnez, aimez, aimez vos ennemis, n'offensez pas. » Ah, comme il parle bien. Il se tourna vers ses frères, qui écoutaient notre conversation, et leur dit quelques mots avec chaleur. Ils causèrent longtemps, sérieusement, approuvant parfois leur jeune frère d'un hochement de tête, puis avec un sourire grave et bienveillant, un sourire tout musulman, j'aime beaucoup la gravité de ce sourire, ils m'assurèrent que Issou, Jésus, était un grand prophète. Il avait fait de grands miracles, créé un oiseau d'un peu d'argile sur lequel il avait soufflé la vie, et cet oiseau s'était envolé. Cela était écrit dans leur livre. Ils étaient convaincus qu'il me ferait un grand plaisir en louant Issou. Quant à Alei, il était heureux de voir ses frères m'approuver et me procurer ce qu'il estimait être une satisfaction pour moi. Le succès que j'eus avec mon élève en lui apprenant à écrire fut vraiment admirable. Alei s'était procuré du papier, à ses frais, car il n'avait pas voulu que je fisse cette dépense, des plumes, de l'encre. En moins de 2 mois, il apprit à écrire. Les frères eux-mêmes furent étonnés d'aussi rapides progrès. Leur orgueil et leur contentement n'avaient plus de bornes. Ils ne savaient trop comment me manifester leur reconnaissance. Au chantier, s'il nous arrivait de travailler ensemble, c'était à qui m'aiderait. Ils regardaient cela comme un plaisir. Je ne parle pas d'Alei. Il nourrissait pour moi une affection aussi profonde que pour ses frères. Je n'oublierai jamais le jour où il fut libéré. Il me conduisit hors de la caserne, se jeta à mon cou et sanglota. Il ne m'avait jamais embrassé et n'avait jamais pleuré devant moi. « Tu as tant fait pour moi, tant fait, » disait-il, « que ni mon père ni ma mère n'ont été meilleurs à mon égard. Tu as fait de moi un homme, Dieu te bénira. Je ne t'oublierai jamais, jamais. » Où est-il maintenant? Où est mon bon, mon cher, cher Alei? Outre les circassiens, nous avions encore dans notre caserne un certain nombre de Polonais qui faisaient bande à part. Ils n'avaient presque pas de rapport avec les autres forçats. J'ai déjà dit que grâce à leur exclusivisme, à leur haine pour les déportés russes, ils étaient haïs de tout le monde. C'étaient des natures tourmentées, maladives. Ils étaient au nombre de 6. Parmi eux se trouvaient des hommes instruits, dont je parlerai plus en détail dans la suite de mon récit. C'est d'eux que pendant les derniers temps de ma réclusion, je tins quelques livres. Le premier ouvrage que je lus me fit une impression étrange, profonde. Je parlerai plus loin de ces sensations que je considère comme très curieuses. Mais on aura de la peine à les comprendre, j'en suis certain, car on ne peut juger de certaines choses si on ne les a pas éprouvées soi-même. Il me suffira de dire que les privations intellectuelles sont plus pénibles à supporter que les tourments physiques les plus effroyables. L'homme du peuple, envoyé au bagne, se retrouve dans sa société, peut-être même dans une société plus développée. Il perd beaucoup son coin natal, sa famille, mais son milieu reste le même. Un homme instruit, condamné par la loi à la même peine que l'homme du peuple, souffre incomparablement plus que ce dernier. Il doit étouffer tous ses besoins, toutes ses habitudes, il faut qu'il descende dans un milieu inférieur et insuffisant, qu'il s'accoutume à respirer un autre air. C'est un poisson jeté sur le sable. Le châtiment qu'il subit, égal pour tous les criminels, suivant l'esprit de la loi, est souvent 10 fois plus douloureux et plus poignant pour lui que pour l'homme du peuple. C'est une vérité incontestable, alors même qu'on ne parlerait que des habitudes matérielles qu'il lui faut sacrifier. Mais ces Polonais formaient une bande à part. Ils vivaient ensemble. De tous les forçats de notre caserne, ils n'aimaient qu'un juif, et encore parce qu'il les amusait. Notre juif était du reste généralement aimé, bien que tous se moquassent de lui. Nous n'en avions qu'un seul, et maintenant encore, je ne puis me souvenir de lui sans rire. Chaque fois que je le regardais, je me rappelais le juif Yankel que Gogol a dépeint dans Taras Bulba et qui, une fois déshabillé et prêt à se coucher avec sa juive dans une sorte d'armoire, ressemblait fort à un poulet. Isaï Fomitch et un poulet déplumé se ressemblaient comme deux gouttes d'eau. Il était déjà d'un certain âge, 50 ans environ, petit et faible, rusé et en même temps fort bête, hardi, outrecuidant, quoique horriblement couard. Sa figure était criblée de rides. Il avait sur le front et les joues les stigmates de la brûlure qu'il avait subie au pilori. Je n'ai jamais pu m'expliquer comment il avait pu supporter 60 coups de fouet, car il était condamné pour meurtre. Il portait sur lui une ordonnance médicale qui lui avait été remise par d'autres juifs, aussitôt après son exécution au pilori. Grâce à l'onguent prescrit par cette ordonnance, les stigmates devaient disparaître en moins de 2 semaines. Mais il n'osait pas l'employer. Il attendait l'expiration de ses 20 ans de réclusion, après lesquels il devait devenir colon pour utiliser son bienheureux onguent. Sans cela, je ne pourrais pas me marier. Il faut absolument que je me marie. Nous étions de grands amis. Sa bonne humeur était intarissable. La vie de la maison de force ne lui semblait pas trop pénible. Orfèvre de son métier, il était assailli de commandes, car il n'y avait pas de bijoutier dans notre ville. Il échappait ainsi aux gros travaux. Comme de juste, il prêtait sur gage à la petite semaine au forçat qui lui payait de gros intérêts. Il était arrivé en prison avant moi. Un des Polonais me raconta son entrée triomphale. C'est toute une histoire que je rapporterai plus loin, car je reviendrai sur le compte d'Isaï Fomitch. Quant aux autres prisonniers, c'étaient d'abord 4 vieux croyants, parmi lesquels se trouvait le vieillard de Starodoub, 2 ou 3 petits Russiens, gens fort moroses, puis un jeune forçat au visage délicat et au nez fin, âgé de 23 ans, et qui avait déjà commis 8 assassinats. Ensuite, une bande de faux monnayeurs, dont l'un était le bouffon de notre caserne, et enfin quelques condamnés sombres et chagrins, rasés et défigurés, toujours silencieux et pleins d'envie. Ils regardaient de travers tout ce qui les entourait, et devaient encore regarder et envier, avec le même froncement de sourcils, pendant 2 longues années. Je ne fis qu'entrevoir tout cela. Le soir, désolé de mon arrivée à la maison de force, au milieu d'une fumée épaisse, d'un air méphitique, de jurements obscènes accompagnés de bruits de chaînes, d'insultes et de rires cyniques. Je m'étendis sur les planches nues, la tête appuyée sur mon habit roulé, je n'avais pas alors d'oreiller, et je me couvris de ma touloupe. Mais par suite des pénibles impressions de cette première journée, je ne pus m'endormir tout de suite. Ma vie nouvelle ne faisait que commencer. L'avenir me réservait beaucoup de choses que je n'avais pas prévues et auxquelles je n'avais jamais pensé.